Entre Loire et Loin. C'est l'heure du magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Je vous rappelle que Entre Loire et Loin, c'est aussi une chaîne YouTube, une page Facebook, une chaîne Mixcloud, un compte Insta. Enfin bref, on est sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, échangez avec nous, avec nos invités. Et surtout, retrouvez toutes les interviews que nous diffusons dans cette émission en vidéo avec plein d'infos, plein de liens à explorer pour aller plus loin. Soyez curieux. La semaine dernière, nous avions consacré l'émission au sauvetage du manège de Petit-Pierre à la Fabuloserie. Sophie Bourbonnet nous avait raconté toute l'histoire de ce lieu et de cette œuvre majeure de l'art brut. Bien sachez que grâce à votre soutien, la campagne de dons sur KissKissBankBank est un succès. Le premier seuil de 25 000 euros de dons a été atteint. Donc bravo. Et puis merci à tous les contributeurs. Pas de cagnotte cette semaine au sommaire de cette émission, mais beaucoup de gens beaux et intéressants comme d'habitude. Nous rencontrerons Raphaël Bardas, un auteur un peu déjanté qui évolue dans le monde du jeu de rôle, de l'heroic fantasy, du steampunk. Il nous parlera de son premier roman, mais est-ce bien le premier ou le 40e ? Enfin bref, il nous expliquera. Nous discuterons également avec toute la compagnie Jeu est un autre, qui vient de créer au Hangar à Chalette une adaptation dantesque de la pièce Quartet de Heiner Müller. Nous parlerons construction paille avec Mickey Leclerc, le président de la maison Feuillette. C'est écologique, c'est performant, c'est isolant, c'est résistant, c'est durable. Enfin bref, vous saurez plein de choses sur la construction paille tout à l'heure. Mais pour commencer cette émission, place à Bruno Chiron qui va nous parler de Lucky Luke. Tiens, dans sa chronique « Assez de blabla ».
Autre temps, autre mœurs. Durant toute sa carrière de cow-boy, Lucky Luke a côtoyé une population sacrément bigarrée. Indiens, noirs, latinos et même chinois. La plupart du temps, ces habitants du Far West, imaginés par Maurice, étaient mis au second plan et caricaturés. Sauf que l'époque a changé et que les mouvements sociaux et d'émancipation sont passés par là. Un cow-boy dans le coton, écrit et dessiné par HD et Jules, prend un nouveau virage et épouse à sa manière le mouvement Black Lives Matter. Cette fois, Lucky Luke se frotte au racisme du Sud-Américain. Devenu propriétaire d'un champ de coton dans la Nouvelle-Orléans, suite à un don inattendu, l'homme qui tire plus vite que son ombre est bien décidé à refuser l'héritage d'une vieille admiratrice. Il se décide à aller visiter ses terres avant de les rendre aux ouvriers qui les exploitent. Évidemment, il faudra compter avec les voisins du domaine, des propriétaires blancs sans vergogne. HD au dessin et Jules au scénario font de ce nouvel album une savoureuse aventure au cœur du sud profond américain. Les auteurs ont notamment redonné vie à Bass Reeves, un cow-boy tombé dans l'oubli en raison de sa couleur de peau. Les auteurs parsèment la BD de figures anachroniques et de références bien actuelles. Angela, une femme noire revendicative, n'est pas sans rappeler Angela Davis. Deux enfants portent les éloquents prénoms d'Ofra et de Barack. Quant au propriétaire qui donne du fil à retordre à Lucky Luke, il évoque le personnage de Calvin Candy, joué par Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Les étincelles sont garanties pour ce 123e album du Cowboy Solitaire et qui se termine par un événement qui n'est pas sans rappeler une actualité plus récente, toujours dans le sud profond américain. Mais assez de blabla, je ne vous en dis pas plus. J'oubliais de vous dire que les Dalton sont bien entendu de la partie, mais sans rentemplant cette fois.
C2L.
www.c2l-radio.fr. Merci Bruno, assez de blabla, la chronique de Bruno Chiron donc, que vous retrouverez sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Et je vous invite également à retrouver des dizaines de chroniques culturelles écrites par Bruno sur son fameux blog, le Blablablog. Vous cherchez sur internet blablablog.com pour découvrir plein de disques, plein de bouquins, plein de films, des séries qu'il vous conseille. C'est très bien écrit. Enfin bref, voilà, découvrez tout ça. Petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants entre Loire et Loin, tranquille. On parlera théâtre avec la compagnie Jeu est un autre.
I have to say it and it's hard for me. You've got me crying like I thought I'd never be. Love is believing, but you let me down. How can I love you when you're not around? Get to the morning and you never call. Love should be everything or not at all. But it don't matter, whatever you do, I made a life out of loving you. Only to find any dream that I follow is dying. I'm crying in the rain. I should be searching my world for a love everlasting and feeling no pain. When will we meet again? Why do you have to be a heartbreaker? Is this the lesson that I never knew? Gotta get out of this spell that I'm under, my love for you. Why do you have to be a heartbreaker when I was being what you want me to be? Suddenly everything I ever wanted has passed me by. This world will end, not you and I. My love is wider than the universe. My soul's crying for you, and that can't be reversed. You made it up, but you couldn't see. You made a life out of hurting me. Out of my mind, I am held by the power of you, love. Tell me, when do we try? Or just say goodbye. Why do you have to be a heartbreaker? Is this the lesson that I never knew? Gotta get out of the spell that I'm under, my love for you. Why do you have to be a heartbreaker when I was being what you wanted me to be? Suddenly everything I ever wanted has passed me by. This world will end, not you and I.
C2L.
Nous sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L, merci d'être avec nous. On m'a fait remarquer que les morceaux qu'on passe dans l'émission ne sont jamais présentés. Alors, en fait, l'émission n'est pas en direct, donc du coup, en fait, c'est monté, c'est enregistré par petits bouts, etc. Ce qui fait qu'en fait, au moment où on enregistre ces voix, les morceaux qui seront diffusés ne sont pas encore connus. Donc on ne sait pas, on ne peut pas les annoncer. Du coup, ce qu'on peut faire par contre, c'est de vous mettre une playlist sur notre page Facebook ou sur c2l-radio.fr. On vous mettra à disposition toute la playlist des morceaux qu'on passe dans cette émission, c'est promis. Allez, abonnez-vous. Direction le hangar, à présent l'espace culturel de Chalette, où la compagnie Je est un autre était en résidence ces derniers temps pour la création de leur nouveau spectacle.
Bon, alors voilà, nous voilà à l'issue de Quartet. On est tous un peu chamboulés, bouleversés du spectacle qu'on vient de voir. D'abord parce que on était sevrés, évidemment, de spectacle. Et ce spectacle qui a été créé par la compagnie Je est un autre, d'une force incroyable. Mais avant de vous remercier, mesdames et messieurs de la troupe, je voudrais remercier Manu du Hangar qui nous permet donc d'assouvir notre soif de spectateurs, même si c'est vrai qu'on était des spectateurs privilégiés puisque c'était 2 jours de représentation pour les professionnels.
Et alors, représentation pour les professionnels par la force des choses, hein, c'était pas mon choix. J'aurais préféré que ce soit ouvert à tout le monde, on est bien d'accord. Et puis, oui, mais c'est en même temps, c'est nécessaire. C'est moi, j'ai juste l'impression de faire mon boulot, c'est-à-dire que c'est pas parce que les théâtres sont fermés qu'il ne s'y passe rien, c'est pas parce que les théâtres sont fermés que les artistes n'ont pas la nécessité de travailler, parce que faut aussi préparer la suite, et c'est dont acte, c'est ce qu'on fait, et pour bien préparer la suite il faut aussi avoir des retours, donc effectivement on fait venir des professionnels puisqu'ils ont le droit, et donc voilà, bah c'est aujourd'hui, c'est demain, et on, nous aussi on en a besoin. Le plaisir, il n'est pas seulement à destination de ceux qui peuvent venir, il est aussi pour nous, il est même presque égoïste, on a besoin d'être là.
Je vais faire le tour. Ici au milieu, on a la chef de troupe, elle ne va pas aimer, je suppose, ce terme, c'est Aurélie Plot. Voilà, Compagnie Jeu est un autre. Et puis juste à côté de toi, c'est Monsieur Poisson. Benjamin, t'as fait la créa lumière et tu es également à la régie lumière, en l'occurrence pendant le spectacle. Juste à côté, la jolie jeune fille, c'est Sophie Dubosc. Elle est la chargée de production de la compagnie et Aurélie dit que qu'elle est son bras droit. C'est un joli bras droit. Hein. Et puis derrière, il y a un grand monsieur qui ne parle pas, mais on sait même quand il ne parle pas qu'il est québécois. Et c'est un sound designer. Il s'appelle Étienne Geoffroy, création son et régisseur son. C'est très important, on va en parler, parce que vraiment le son, c'est un personnage à part entière. Il y a une vraie création sonore extraordinaire sur ce spectacle. Et puis juste à côté, il y a un personnage tout à fait subsidiaire. Pas du tout, évidemment. C'est Valmont. Et Valmont, c'est Raphaël Fournier. Et qui d'autre? Il nous manque quand même un personnage essentiel dans tout ça. C'est le scénographe. C'est Florent Burgevin. Parce que Florent, il a créé ce sur quoi vous vous promenez, vous reposez des fois. C'est dommage, on déflore, ne serait-ce qu'en vous disant ça, on déflore quand même une chose étonnante dans ce spectacle, c'est la pyramide. Voilà, une terrible pyramide. Ah ça y est, tu l'as montré un petit peu. T'as craqué. Allez, Aurélie, je te passe le micro et dans un premier temps, tu nous rappelles ce que c'est que Quartet, parce qu'on fête les 40 ans de Quartet cette année.
Quartet, c'est un texte de Dainer Müller, qui est un auteur allemand. Texte écrit donc en 1981. Et moi, j'emploie le mot d'excroissance des liaisons dangereuses. Voilà. Donc de la Clos, liaison dangereuse, qui est un texte, ça fait partie des canons de la littérature. Et Dainer Müller, qui évidemment affectionnait beaucoup ce roman, pour des raisons qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, en a proposé une excroissance, puisque on sait qu'à la fin des liaisons dangereuses, Valmont meurt en duel. Hein, tué par le chevalier Danceny, qui est donc le petit amoureux de Cécile Volanges, que Valmont pervertit, n'est-ce pas, et déflore pendant le roman. Et la Merteuil, elle, subit une mort sociale, qui est la pire des morts qu'elle puisse subir d'ailleurs. Et donc là, on retrouve ces personnages, en fait. Elle a la petite vérole aussi, la Merteuil, à la fin du roman de la Clos. Et donc là, on retrouve ces personnages qui, des années après, on suppose, se retrouvent et sont un peu esselés et s'amusent beaucoup à rejouer leurs crimes passés. En fait, voilà. Donc le parti pris là de ce spectacle, c'est d'avoir campé en fait Merteuil et Valmont en enfer, puisque la didascalie initiale du texte de Müller nous laisse le choix. Donc ça, c'est génial pour un metteur en scène, c'est que voilà, on a un choix effectivement d'interprétation. Donc c'est un salon d'après la Révolution française. Donc là, on se retrouve dans le siècle de la Clos, ou alors un bunker d'après la Troisième Guerre mondiale. Et là, on est plus dans un univers post-apocalyptique, effectivement. Et la volonté qu'on a eue, c'est vraiment même de camper ces deux personnages en enfer, confinés en enfer, donc sur une pyramide qui est le troisième personnage du spectacle, et obligés de se subir, de subir l'autre, mais en même temps avec un certain plaisir.
C'est vrai que nous, quand nous arrivons ici, dans la salle, avant même que vous n'arriviez, Raphaël et Aurélie, il y a deux personnages qui existent. Il y a cette fameuse pyramide, très ingénieuse, déjà en soi une prouesse technique. Félicitations. Et puis, il y a la création sonore. Voilà. Moi, je me suis absolument régalée. Et tu vas nous en dire plus et nous dire, en fait, tu travailles durant toute la pièce. Tu es derrière tes manettes.
Ouais, bah, toutes les créations sonores en fait est faite en direct. C'est-à-dire que je dois pas lâcher les comédiens ni le dispositif scénique de vue de tout le spectacle. C'est ce qui permet aussi de bien faire correspondre les mouvements, les déplacements et puis tout ça. Et je dirais, au-delà de ça, le son, ce qui permet de faire, c'est de créer l'environnement autour, mais aussi de créer, la faire vivre, en fait, cette pyramide. C'est-à-dire qu'elle respire, elle grogne, elle bouge, elle digère, elle gargouille. Et puis, cette couche sonore-là vient vraiment créer une espèce, je crois, de décor pour venir appuyer, en fait, une mise en lumière qui est magnifique aussi. Voilà. Alors, je fais la transition.
Voilà. Et ben, tu peux passer ça à ton collègue. C'est bien.
Merci Étienne. J'avoue que je me régale sur le son aussi. Moi, je ne sais pas trop quoi dire. Il y avait une volonté d'Aurélie et Raphaël de d'inscrire cette pyramide dans un espace infini, proche de l'enfer, dans l'esthétique, des choses proches aussi d'ambiance qu'on peut ressentir dans des films comme Alien. Avec le côté aussi très matrice, organique, voilà. Et donc l'idée, c'était que la lumière vienne appuyer ce propos, qu'on ait aussi une lumière, comment dire, physique, quoi, une texture en fait de lumière. Et voilà, je pense qu'on a été très vite tous d'accord. Enfin, voilà, de contraintes, parce que la pyramide peut être une contrainte à bien des égards sur la scéno, sur le jeu, sur la lumière, les directions, etc. Je pense qu'on en a fait quelque chose finalement, enfin en tout cas pour le spectateur, tout est assez simple de ce qu'il voit. Et ça, c'est un peu, je trouve, que la prouesse qui a été réalisée sur ce spectacle, quoi. Voilà.
Donc, moi, je retiens une chose. Dans vos références, il y a eu, par exemple, il y a eu des brainstorming entre vous tous, etc. Et Alien, par exemple, moi, j'y avais pas pensé, mais tu as raison. C'est Alien, l'œuf, en fait. C'est ça ?
Exactement.
Hein ? C'est une de tes références. Ouais. L'œuf, voilà.
Et Stranger Things aussi. D'accord. Voilà, il y avait deux références vraiment que j'avais en tête quand je suis allée voir Florent Burgevin au départ, avant même que l'idée de la pyramide existe. Hein. C'était vraiment complètement le début de la création. Il y avait effectivement Alien et Stranger Things, qui est une série Netflix qui est extrêmement connue des ados, et dans laquelle il y a ce qu'on appelle le monde à l'envers. D'accord. Et dans ce monde à l'envers, il y a effectivement des racines, des choses organiques qui suintent, qui rappellent effectivement l'univers d'Alien.
Voilà. Alors maintenant, évidemment, tu n'as encore rien dit, mais tu sais pourquoi ? C'est que tu dis tant de choses sur scène et tu les dis tellement bien. En même temps, tu es un personnage absolument terrifiant, Raphaël. Et... Valmont, ah oui, défini. Ah oui, excuse-moi. Et oui, c'est ça. Et ce Valmont nous terrifie tellement qu'après on se dit, quelle tête il a, mais quelle tête il a ce comédien, comment il est en vrai. Raconte-nous tout ton travail, un travail très physique également, un travail très chorégraphié et très précis.
Merci. Oui, c'est vrai que très rapidement, dans le travail avec Aurélie, on a eu envie d'investir le corps et d'avoir un parti pris très animal aussi dans l'approche de ces personnages créatures. Voilà. Comme l'esthétique de l'enfer est apparue, qu'il y a eu cette pyramide qui a été apportée par Florent, l'univers dans lequel on a plongé, très rapidement on s'est dit, ok, ces personnages, enfin ce Valmont et cette Merteuil-là dans cette mise en scène ne peuvent pas être humains ou normaux entre guillemets. Voilà, il faut qu'ils habitent cet univers de la même manière que la lumière, que la scénographie, que le son, tout ça qui est donc un travail de déformation. De déformer nos corps, de déformer notre voix, de déformer. Et aussi pour amener plus d'organique dans les mots. Parce que le texte, c'est déjà un défi en soi. Et de le rendre organique, concret, dans le but de le rendre aussi plus accessible, plus audible pour le spectateur.
Alors, t'as une amplitude vocale exceptionnelle. À un moment donné, tu montes en voix de tête, j'en voulais encore. C'est très très beau. Oui, c'est vrai. C'était vraiment très beau. Je vais vous donner quelques phrases qui m'ont... Je passe pas mon temps à écrire pendant un spectacle, hein, évidemment. Mais écoute, j'ai sorti le stylo quand j'ai... Ça, tu y penses à chaque fois. J'étais un autre, je l'avoue. Tu dis ça à un moment donné.
J'étais un autre, je l'avoue, avant que m'atteigne l'éclat de vos yeux.
Voilà. Alors c'est tout. Je est un autre.
Oui,
ça m'a fait... ça m'a tapé. Je me dis, mais c'est quand même fou.
Ce qui est dingue, c'est que moi, j'y ai même pas pensé, tu vois. mais en revanche, le je est un autre, voilà, il est. C'est quand même un peu un fil conducteur, même à travers les créations de la compagnie, puisque les bonnes, c'est du théâtre dans le théâtre. Quartet, c'est du théâtre dans le théâtre, donc de toute façon à chaque fois je est un autre.
Voilà. Oui, alors monsieur Raphaël, c'est difficile pour vous ce rôle parce que vous dites l'espace vide entre mes cuisses et vous oubliez votre sexe. En fait, vous devenez deux créatures, vous le dites, qui en plus échangent leur rôle d'homme et de femme à l'envi, surtout dans un sens, tu disais. C'est toi qui joues le rôle de Valmont à un moment donné, mais pas le contraire.
Ouais.
Toi, après, tu joues le rôle de...
Tourvel.
De Tourvel.
Ouais.
Effectivement, Merteuil prend le rôle de Valmont. Valmont ne prend jamais le rôle de Merteuil,
oui.
Mais par contre, il prend le rôle de Madame de Tourvel, qui était, dans un premier temps, sa proie, et dont il a fini par tomber amoureux. Donc il rejoue pour moi ce personnage comme dans
une rédemption
exactement. En tout cas dans l'objectif d'obtenir le pardon, de se pardonner à lui-même et puis d'espérer le pardon de Tourvel qui est morte et qu'il n'a peut-être pas obtenu. Voilà.
Mais
donc il y a et le pardon de Merteuil. Donc il y a vraiment le jeu dans le jeu à chaque fois, et il y a une double ou triple lecture du texte à chaque fois sur cette pièce.
Et tu disais enfin une chose intéressante, Aurélie, c'est qu'à l'heure actuelle, alors dans les années 80, on se le disait, nous qui sommes des filles des années 80, tu vois. Dans les années 80, ça te fait rire, toi, hein. Parce que... Non, mais on se disait très sérieusement que dans les années 80, ça a été la mode, les étudiants ou jeunes lycéens qu'on était, on lisait Les Liaisons Dangereuses. Hein, ça a été, comment dire, c'était presque la mode. tu vois. D'ailleurs, tu me disais que ça avait été... je te disais que ça avait un côté très années 80, et tu me disais que, comment s'appelle-t-il, qui avait mis en scène à l'époque Isabelle Huppert.
Alors c'est un peu
pas les années 80, c'est un petit peu les années 90, 2000.
La date en tête, mais effectivement, il y a une mise en scène voilà. De Bob Wilson.
Bon, et puis il y avait eu il y avait eu aussi le film. Toi, tu t'en souviens, Manu? Oui. Tu t'en souviens? Ah bon, voici quand même. Bon, tout ça pour dire que à l'heure actuelle, on ne lirait plus les liaisons dangereuses, et c'est vrai que pour des adolescents ou pour des jeunes, le texte d'Ainer Müller, c'est une sorte de concentré, de condensé, d'hypertexte, avec une fin peut-être plus intéressante, une fin plus... comment, une meilleure fin? Ou pas?
Wow. Question difficile. Non, je vais pas salir la mémoire de la Clo que j'aime énormément, et la fin des liaisons dangereuses est superbe, et voilà, et la fin de Müller est très belle aussi, mais parce que la fin de Müller en fait porte l'accent sur les sentiments qui existe entre Valmont et Merteuil, en fait. Et Laclos le dit, hein, de manière, mais ça reste très implicite, puisque c'est un roman épistolaire, donc on a la voix de Valmont, on a la voix de Merteuil, mais on n'a pas voilà, un narrateur, une focalisation qui nous permettrait de rentrer dans les têtes des personnages, en fait. Là, on est dans une fin qui, c'est déjà une interprétation des liaisons dangereuses. Voilà. Le rachat, la rédemption, se racheter aux yeux de Merteuil, Merteuil se rachète aux yeux de Valmont, peut-être qu'ils se rachètent tous les deux aux yeux de Dieu, aux yeux du monde. Bon, voilà, on peut en faire mille et une lectures.
Donc voilà, on pourrait finir là-dessus, parce que vous allez jouer... quand, Manu?
Demain à 15h.
Non, non, mais pour le public, des vrais, quoi, des trucs vrais, quoi, avec des vrais gens. Novembre
18 et 19.
Tu vois? Voilà, 18 et 19 novembre, on serait peut-être tous réunis dans cette salle pour voir jouer Raphaël et Aurélie. Et donc, il faut y aller... c'est ouvert à tous, c'est-à-dire aux adultes, mais aussi aux jeunes, aux adolescents. C'est ça, parce que toi, c'est important pour toi de toucher le jeune public.
Alors le jeune, bon, il y a jeune public et jeune public. Donc là, on n'est pas sur une représentation pour des écoles maternelles, hein, ça c'est très clair. Voilà, donc mieux vaut prévenir. Non, si on faisait un programme, c'est compliqué de dire à partir de tel âge, en fait. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité, de la culture aussi de chaque adolescent. En tout cas, une des volontés de Jeu est un autre, c'est vraiment effectivement de faire de la médiation culturelle. Donc là, demain, ben voilà, on a des enseignants de lettres qui viennent voir le spectacle, parce que on aimerait aller en lycée. Ensuite, à l'issue des représentations de novembre, il y aura une scolaire, donc le 19 novembre, pouvoir faire un travail aussi avec les enseignants de lettres en amont, parce que je pense que c'est un spectacle qu'il faut préparer un petit peu quand même. Et puis voilà, peut-être une intervention après aussi, voilà, ce qu'on appelle un bord plateau pour discuter avec ces adolescents. Mais on a des adolescents qui sont venus voir une sortie de résidence là au mois de février, et ça a très très bien fonctionné. Voilà, malgré effectivement le texte qui est, c'est pas du langage Snapchat, hein, on n'est pas là-dedans. C'est très effectivement, c'est un texte qui est très beau, qui est très très littéraire. Mais la, voilà, moi je crois que la mise en scène permet de quand même de l'entendre et de le comprendre. Ils n'ont pas eu l'air perdu. Voilà.
Parfois des impressions de longs poèmes, et puis parfois des éclats de rire dans la salle qui vous ont fait plaisir aussi. Hein? Peut-être des éclats de rire tout à fait inattendus. Pour nous aussi, des respirations dans tant d'intensité, au milieu de tant d'intensité, soudain. C'était très étrange, ces rires. Et ça fait du bien, et vous, ça vous fait du bien aussi.
Et ça nous fait d'autant plus plaisir, je pense, à tous, c'est que en fait, Müller lui-même regrettait le fait qu'on traite Quartet de manière très sacralisée. C'est-à-dire qu'en fait, Quartet, c'est alors on a Merteuil et Valmont au plateau, on a une langue qui est quand même, et c'est un très beau travail d'écriture de Müller, on a une langue qui est très proche de celle de Laclos. Et alors c'est comme si on touchait une sorte de Graal, d'objet sacralisé qu'il faudrait surtout pas venir salir. Et il regrettait qu'il n'y ait pas de farce. Voilà, dans les mises en scène qu'il avait vues de Quartet. Donc j'espère que ça a vraiment été notre volonté, et j'espère que ça, le public va le sentir. Et déjà, le public était là aujourd'hui, effectivement, a réagi en riant. Donc c'est super, quoi. C'est super.
Bon, voilà, on arrête de vous en dire plus. On va pas vous en dire plus, mais en fait, on vous a rien dit, quoi, pour ainsi dire. Donc, c'était bien que vous rencontriez des hommes et des femmes dans les gradins, et venez vite les découvrir sur scène. Donc, ça sera les 18 et 19 novembre prochain. Et Manu sera là avec son costume de soirée, oui. Sa cape de Gérard Majax. Et il dira bienvenue au hangar. Voilà.
Exactement. À bientôt.
Rendez-vous donc, on l'espère, au mois de novembre pour ce spectacle Quartet, une pièce d'Anne Müller créée par la compagnie Je est un autre. Ça se passera au hangar et on ne manquera pas de vous le rappeler. Une petite respiration musicale à présent et on se retrouve dans quelques instants entre Loire et Loin avec Mickey Leclerc. Nous parlerons de maison en paille. Et ouais.
BP Entreprise, spécialiste de la fermeture aluminium, bois PVC, véranda. Installation et dépannage 24h sur 24. Fenêtres, stores, volets roulants, portes d'entrée, garage, portails, clôtures, véranda, rideaux métalliques et bien plus encore.
Offre promotionnelle.
4 fenêtres achetées, un volet roulant offert. Aimez notre page Facebook et essayez de trouver le code promo pour gagner un volet roulant supplémentaire. Rendez-vous au showroom 24 Gaillardin à Montargis. Plus de renseignements au 02 38 26 56 84 ou sur la page Facebook RénovABP. C2L Radio,
plus proche de vous. C2L.
La radio de l'Est du Loiret.
Nous sommes entre Loire et Loin sur C2L, c'est le magazine du Gâtinais, merci de nous écouter. Mickey Leclerc, c'est le président du Centre National de la Construction Paille, Émile Feuillette, ça, c'est à Montargis. Il nous explique un petit peu tout ça, comment, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, est-ce que c'est bien de construire des maisons en paille, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est durable, et tout ça c'est au micro de Sandrine Manteau.
Bonjour Mickey.
Bonjour Sandrine.
Alors voilà, je dis Mickey, tout à l'heure je vous ai dit, ah Mickey comment ? On me dit Mickey simplement de la maison Feuillette, tout le monde me connaît sous le prénom de Mickey.
Oui, bien sûr.
C'est Mickey Leclerc.
Voilà.
Et vous êtes président du Centre National de la Construction Paille à la maison Feuillette.
Voilà.
C'est ça.
Le CNCP Feuillette.
Le CNCP Feuillette, d'accord. Alors, pour beaucoup de Montargois encore, est-ce que la maison Feuillette est connue? Est-ce qu'il faut continuer à en parler encore et toujours? C'est ce qu'on a eu envie de faire aujourd'hui dans cette émission.
Oui, la maison Feuillette est nettement moins connue des Montargois que du reste de l'Europe, hein, et même du monde. Donc, c'est une maison qui est connue internationalement. Hein, mais ça devient bon.
Ça devient bon, on commence. Oui. Donc, si vous allez nous la situer quand même à Montargis.
Oui, alors elle est au 69 bis rue des Déportés.
Et en direction de la chaussée.
Oui, c'est la chaussée sur la route de Château-Renard.
Et c'est vrai que cette maison, quand on passe devant, on la reconnaît. On ne se dit pas, tiens, une maison en paille.
Ah non, du tout. Non, on ne le voit pas du tout. Il y a des gens qui passent là depuis 20 ans qui ne savaient même pas que c'était une maison en paille. Bon, maintenant, on a mis une grande banderole. Cette maison a 100 ans, elle est en paille. Voilà, c'est explicite. Ça, c'est pour...
Alors, c'est cette maison à 100 ans, c'est une sorte de petite maison bourgeoise, on va dire.
Oui. Hein?
Mm-hmm. Pas ostentatoire non plus, d'ailleurs.
Non, du tout. Non, voilà. Non,
mais... C'est simple, elle est recouverte de vigne vierge.
Oui.
En dessous, il y a un enduit assez simple.
Oui, pour la première fois au monde, c'est un système constructif qui était essayé. C'est une ossature de bois, de chêne et de peuplier grisard, à l'intérieur de laquelle on a mis une isolation paille. Voilà.
D'accord. Donc, par cette architecte, Feuillette, qui auparavant a eu envie de se lancer là-dedans parce qu'il avait eu vent ou avait étudié les premiers essais aux États-Unis de maison paille, c'est ça?
C'est-à-dire, Émile Feuillette était ingénieur. Hein, et,
d'accord.
Il a tout appris tout seul. Il a démarré comme apprenti horloger dans la Meuse, un petit village de la Meuse. Et puis, à son actif, il a répertorié une soixantaine d'inventions, et sans compter toutes celles qu'il n'a pas déposées. Et il prenait un problème et il le résolvait. Là, le problème, c'était l'après-guerre, puisque 1920, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Plus de matériaux, plus de main-d'œuvre spécialisée, et plus d'argent. Donc il a fait ce que les gens faisaient dans le temps, et il a regardé autour de lui. Du bois, il y en a partout en France. De la paille, il y en a quasiment partout. Voilà, il a allié les deux, mais ce n'est pas sa seule invention. Hein.
D'accord. Donc c'était pour pour son utilité à lui, pour se créer une maison pour lui, ou c'était pour déposer un brevet, en fait, dans un domaine qu'il ne connaissait pas?
Non, il ne connaissait pas du tout. Il avait inventé des choses aussi disparates que les balles à blanc, la grenade à fusil, des réservoirs blindés pour les avions, des lampes à carbure, plein de choses, des tracteurs. Des...
Il construit quand même cette maison pour lui.
Non, c'était un homme d'affaires. Hein.
D'accord,
c'était une maison témoin.
Donc c'est un prototype, d'accord,
voilà.
Une maison témoin.
Oui. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu le succès que ça devait avoir.
Pourquoi ?
On ne sait pas. Quand c'est pas l'heure d'une idée, aussi grande puisse-t-elle être, c'est pas l'heure, c'est tout. Et là, depuis les années 80, c'est l'heure, c'est parti, et il y a un essor que, en principe, rien ne va arrêter. Hein.
Alors, donc, nous, les Français, on est à la tête de la construction paille en Europe.
Ah oui.
Aux États-Unis, ça existe quand même depuis longtemps. Les premières maisons paille, elles viennent des États-Unis. Et puis après, dans les années 60, 70, on a continué là-bas à en faire.
Oui. Vers les années 1880, au moment de l'invention de la botteleuse, ils se sont aperçus que une botte de paille, c'est comme une brique. Hein. Donc, on les entasse et puis et voilà. Mais il n'y avait pas d'ossature du tout.
Du tout.
Non, c'était un empilement de ballots de paille. Et, mais en 1920, c'est pour la première fois, on a fait une ossature de bois et une isolation de paille.
Et ça, c'est français.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Donc, vous arrivez en 80 ? Vous êtes un pionnier de la construction paille. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici, Mickey ?
Vous, c'est qui vous ? Moi,
c'est vous.
Moi, oui. Moi, je suis de formation bâtiment, je suis menuisier du bâtiment. Mais ma vie professionnelle, c'est un petit peu comme un gruyère. Hein. Il y a plein de trous dedans, mais je suis toujours revenu au bâtiment.
Oui.
J'ai eu des entreprises, Mais j'ai arrêté parce que la façon de construire ne me plaisait plus. Monter des huisseries en PVC ou en alu, c'était pas mon truc. Donc je me suis arrêté. Je suis tombé en 2010 sur l'éco-construction. Je suis tombé dedans, plutôt. Et voilà, j'ai été travailler au Hameau des Buis, chez Sophie Rabhi. Après, j'ai fait des formations. Et après, je suis rentré au CNCP, au Centre National de la Construction Paille, qui me semblait être une idée, qui est une idée révolutionnaire. Voilà.
Donc alors, qu'est-ce que propose la maison Feuillette aux professionnels ou aux particuliers ? Quels sont les conseils ? Est-ce qu'il y a des ateliers ? Est-ce qu'il y a des...
Voilà, c'est ça le mot. C'est,
oui,
on fait beaucoup de conseils et on met en relation l'offre et la demande. Parce que ça, c'est pas évident. On s'occupe aussi de la formation des professionnels. Et que fait-on encore ? Là, on est aussi chef de file d'un projet européen qui s'appelle UPSTRO, qui réunit plusieurs pays, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre, malgré le Brexit, on travaille avec eux. Et donc, nous sommes chefs de file. On s'occupe de la massification, de la construction paille, on porte la bonne parole, quoi.
D'accord.
On n'a aucune activité commerciale. Hein,
à l'heure actuelle, vous me disiez qu'il y a plus de 5000 bâtiments.
Oui.
En paille, en France.
En France, oui. Il y en a environ 500 de plus tous les ans. Alors, c'est aussi bien des maisons de particuliers que des salles de spectacle, des caves vinicoles, des immeubles. Qui, à Saint-Dié-des-Vosges, cet immeuble fait 8 niveaux, 7 étages. Hein. Il est entièrement en bois et en paille. Il y a une caserne de pompiers. Alors, ça, c'est pour les gens qui disent que ça prend feu facilement.
Et puis il y a aussi le fameux pôle culturel et associatif de Courtenay, qui est, je crois, le premier bâtiment à vocation culturelle en paille.
Oui,
c'est ça.
Oui.
Donc
oui,
bonjour
oui.
Courtenay.
1500 mètres carrés, oui, un très beau travail. Oui, voilà.
Bon, est-ce qu'il y a des évolutions dans la construction paille? Est-ce qu'il y a des évolutions techniques ? Est-ce que c'est intéressant simplement d'évoluer ? Ou est-ce qu'on a déjà tout entre les mains ? Maintenant, il suffit de persuader encore davantage le public de la technicité de ce matériau. Et de sa durabilité.
Oui,
puisque
oui.
100 ans pour une maison, c'est énorme. Est-ce qu'on a encore des applications à voir? Est-ce qu'on a encore des évolutions à connaître?
Ben, la maison Feuillette, qui donc a 100 ans, elle correspond au standard de la réglementation thermique, je vais y arriver, 2005.
Oui.
Et donc, elle est très très performante, malgré que bon, c'est une vieille maison, hein, il n'y a pas de double vitrage, tout ça. Mais j'ai oublié ta question.
Est-ce qu'on est encore en train de faire évoluer
Ah oui, bien sûr, tout le temps. Oui. Comme tous les pans de la construction. Hein.
Oui.
Par exemple, on a des règles techniques, des règles professionnelles. Et là, toutes les personnes qui vont travailler sur la paille, de l'architecte au charpentier, voilà, aux autres corps de métier, doivent avoir la qualification pro-paille. Ça, c'est pour éviter que les détournements, tout ça. Voilà.
Mickey, on parle toujours de construction paille, mais est-ce qu'on peut donc parler de rénovation en paille?
Oui, bien sûr. C'est même mieux que la construction. Hein. Il faut rénover absolument le parc existant.
Exactement.
Et c'est moins polluant de rénover que de construire neuf. Hein.
Donc, quelle solution?
Isolation par l'extérieur.
L'extérieur en paille.
En paille, tout à
Combien
fait.
Combien de centimètres? Parce que si c'est un ballot de paille, ça va être beaucoup.
Ça peut être un ballot de paille,
oui.
C'est-à-dire 36 centimètres,
oui.
Plus les enduits au-dessus.
Oui.
Ah oui, c'est pas des gros ballots, hein. Enfin, tu peux si tu veux, hein, mais et l'avantage, c'est que on a une inertie thermique très très importante. C'est-à-dire que en hiver, la chaleur va se stocker dans les murs, sans sortir parce qu'il y a l'isolation, et en été. Et ça, c'est très important, surtout avec les bouleversements climatiques qu'on voit poindre. On va pouvoir conserver le frais dans les maisons en été.
Est-ce qu'on pourrait se servir de la paille pour l'isolation des combles?
Oui, aussi.
Aussi.
Oui. Certaines personnes isolent même le sol avec la paille.
D'accord. Et donc, quand on veut tous ces renseignements, quand on est particulier, on vient vous faire un coucou à la Maison Feuillette?
Tout à fait. On a un site internet, hein, et vous venez nous voir, on reçoit les gens tout le temps, même le week-end. Enfin, exagérez quand même pas trop, hein, parce que j'aime bien me reposer quand même de temps en temps. Et voilà. Mais on aiguillera les gens.
On a beaucoup de professionnels qui maîtrisent la paille dans le secteur?
Non,
hein,
pas beaucoup, mais non. Mais de plus en plus, hein, parce qu'il y a un engouement, il y a une demande. Donc les artisans, ils font ce qu'on leur demande. Hein, donc voilà, ils se forment chez nous, au Centre National de la Construction Paille. Et voilà.
Et puis dans quelques temps, croise les doigts, on va enfin réussir à faire ce 100e anniversaire.
Oui, on croise les doigts.
Ça fait trois fois, je crois. Trois fois, Mickey, que vous le...
Oui.
Vous mais le reculez.
Tant mieux, comme ça on peut peaufiner, c'est encore mieux. On va proposer des animations intéressantes. Donc c'est le 21 et 22 mai 2021. Et là, j'espère que ça aura vraiment lieu. Le vendredi, il y aura une journée professionnelle. Et le samedi, ça sera tout public et à la Maison Feuillette et aussi dans le jardin du Paty.
Très bien. Et vous allez participer, je pense, avec le PETR à la future édition de Mon Village, Ma Planète.
Oui, bien entendu. On se verra.
Eh bien, on se verra.
Oui.
Merci beaucoup, Mickey.
Mais,
alors, à bientôt.
Au revoir.
Une interview à retrouver en vidéo sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube également, entre Loire et Loin. Vous allez chercher tout ça sur Internet. Et si vous désirez en savoir plus sur le Centre National de la Construction Paille, Émile Feuillette, c'est 69 bis rue des Déportés à Montargis, et c'est sur le web aussi, c'est ncp-feuillette.fr. On revient dans quelques instants pour un entretien plein d'humour, tiens, avec Raphaël Bardas, entre Loire et Loin.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, 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 je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait. Non, non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien.
C2L Radio, www.c2l-radio.fr.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin dans le magazine du Gâtinais sur C2L, comme chaque samedi à partir de 10h sur C2L et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, on nous a signalé que dans le secteur, dans le milieu des gens beaux et intéressants que nous avons pris l'habitude d'inviter dans l'émission, un nouveau verbe est né. C'est le verbe canaper. Je canape, tu canapes, nous canapons, vous canapez. La définition de ce verbe serait, a priori, d'être invité à s'asseoir dans le canapé de l'émission Entre Loire et Loin et d'être interviewé par Sandrine Manteau. C'est très hype. Et c'est justement ce qui est arrivé à Raphaël Bardas cette semaine.
Bonjour Raphaël Bardas.
Bonjour Sandrine Manteau.
Ah, bon, je me retrouve avec plein de bouquins sur le genou.
Ah ouais, tu m'as dit
quelques
bouquins, oui.
C'est ça. Mais alors, à la base, alors voilà, je suis très perturbée parce qu'à la base, je t'invitais, Raphaël, pour nous parler des Chevaliers du Tintamarre.
Oui.
Je lis que c'est ton premier bouquin. Tu me dis oui, c'est mon premier bouquin, mais ce n'est pas mon premier bouquin.
Voilà.
Alors, je ne sais plus à quel saint me vouer.
Alors, ça, c'est mon actu. C'est le dernier roman que j'ai publié, qui est aussi mon premier roman en librairie.
D'accord.
D'accord. Donc, il est sorti juste avant le confinement, il y a un an, en 2020, aux éditions de Nemos. Et
il a une belle carrière.
Et il fonctionne pas mal, effectivement. Je suis plutôt content, il fonctionne pas mal. Et d'ailleurs, un autre roman dans le même univers, qui sera deux fois plus gros, sortira fin août 2021.
Ah oui, voilà. Donc c'est tout demain.
Oui, voilà.
Pépite de l'imaginaire 2020.
Oui.
T'es un garçon plein d'imagination.
Mais c'est de la littérature de l'imaginaire.
C'est ça.
C'est ce qu'on appelle toujours d'ailleurs de la fantaisie.
Oui.
Ça vient au départ de l'heroic fantasy, de la sword and sorcery. Aujourd'hui, il y a tellement de sous-genres que ça part dans tous les sens, donc on a fini par englober ça par le terme français littérature de l'imaginaire.
Bon, à la base, tu as étudié le théâtre médiéval.
Alors, j'ai fait des
études... Il y a longtemps,
oui,
y a longtemps.
On parle de la fin des années 90, même du milieu des années 90. Disons qu'en arrivant à la fac, je me suis pris de passion pour la littérature médiévale, puis... J'avais fini par me spécialiser à un moment dans le théâtre médiéval et en maîtrise par partir sur complètement autre chose, puisque je m'étais intéressé à l'époque à Tolkien et au Seigneur des Anneaux.
Et alors,
mais le théâtre a occupé une grande place dans mon parcours et dans mes influences.
Et le Moyen-Âge, et là on est dans un univers de Moyen-Âge. Alors vas-y, parce qu'on mange des bêtes, tu m'as dit, des... Ah, raconte.
Mais il n'y a pas qu'au Moyen-Âge.
Ça me fait peur. Tu m'as fait peur tout à l'heure.
Nous sommes en 2021, on ne mange plus de bêtes. Nous sommes tous véganes.
Des bêtes mystérieuses, tu m'as dit.
Non. Oui, alors, c'est plutôt 17e siècle, l'influence, l'inspiration.
D'accord. Ah,
alors,
d'accord.
Oui, ça va évoquer quand même un système féodal parce qu'on a des chevaliers. Le roman s'appelle Les Chevaliers du Tintamarre. Mais moi, l'univers que je décris là-dedans est davantage inspiré par les Trois Mousquetaires, par un XVIIe siècle tel qu'on a pu l'imaginer au XIXe ou au XXe siècle.
Oh, c'est beau ça. D'accord. Alors, moi, j'ai retenu une devise m'a donné envie de t'inviter, sinon je ne sais pas si je t'aurais invité. Avant d'être héros, chevalier ou prince, il faut savoir lever le coude.
Oui.
C'est une philosophie de vie.
Moi je sais lever le coude, mais par contre j'ambitionne absolument pas d'être héros, chevalier ou prince.
Mais je sais que t'aimes beaucoup Bukowski.
J'adore Bukowski, ouais.
Ce qui n'a rien à voir avec la choucroute en l'occurrence.
Non, mais tu vois, quand j'ai présenté pour la première fois ce projet à mon éditeur, moi je lui ai dit que j'aime beaucoup la fantaisie, j'aime beaucoup la littérature de l'imaginaire, mais ça ne m'intéressait pas, je ne sais pas faire d'ailleurs, d'aller raconter une énième histoire de fantaisie, le roman initiatique, le héros élu des dieux et qui allait devoir reconquérir son trône. Ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais envie de plaquer une littérature à la Bukowski ou à la John Fante sur de l'imaginaire. Donc mon travail, il va dans ce sens-là. Et je sais d'ailleurs que notre ami commun Sylvain Gillet fait à peu près la même chose avec le policier. Je ne sais pas s'il t'a parlé de ses influences,
non,
mais on s'est rendu compte qu'on avait quand même
Sylvain
des points
Gillet,
communs.
Sylvain Gillet, tu m'as déçu sur ce coup-là. Il faudrait que
Sylvain,
tu reviennes.
Franchement, bravo.
Bon, alors, dedans, c'est plein d'humour. Je crois que tu es un garçon
malgré moi
pétillant, hein, on va dire. Tu parles des aventures de Silas, Moru et Rossignol.
Ouais.
Rien que ça me donne envie, quoi.
Alors en fait, c'est pas Moru, c'est la Moru.
La
ça doit être un monsieur, c'est très important, c'est la Moru. Il n'y a que les proches qui peuvent l'appeler Moru. Sinon,
ah bon,
ça l'énerve et il va se bagarrer, mais c'est là, Maury.
D'accord, ouais. Très bien. Et alors, ils vont se battre contre des gargueulards.
Oui, alors à un moment dans...
Des gargueulards.
Non, il n'y en a qu'un, il y a un gargueulard.
D'accord, et des spadassinges.
Il y a un spadassinge.
Tu gardes le mystère.
Bon, un spadassin,
non,
c'est...
Non, mais
c'est
peux garder le mystère.
Non, je vais y venir. J'adore parler. Surtout de moi. Et donc, le spadassinge, c'est une contraction de spadassin et de singe.
Oui, d'accord, oui, c'est logique.
Paf, spadassinge.
D'accord.
Donc, c'est un spadassin, donc quelqu'un qui est adroit à l'épée et qui grimpe au mur.
Ah,
qui grimpe,
oui.
qui est très
d'accord.
à l'aise pour se déplacer.
D'accord.
Et comme
c'est
mes personnages.
C'est pas un animal, c'est
non,
pas
non,
une,
c'est une
un
personne,
être fantastique.
C'est
alors.
Une personne, simplement. L'un d'entre eux a observé cette personne et veut dire à ses copains voilà, j'ai vu une personne qui faisait ça. Et le seul des trois qui a lu deux ou trois livres et qui est capable d'aligner les mots, il dit spadassin, grimpe comme un singe. Paf, c'est un spadassinge. Et donc, ça va s'enchaîner là-dessus.
Bon, c'est très bien. On laisse ça de côté parce
si
que
tu
nous as apporté plein d'autres bouquins et ça, je ne m'y attendais pas.
Ben oui, tu m'as dit apporte tes livres. Et
voilà. Alors, on
genre,
a ça.
J'ai pas tout apporté.
Oh, c'est fou ça. Il faut dire que vu ton âge, oui, c'est normal.
Et oui.
aux traîtres indomptables.
Tu veux vraiment que nous parlions de nos âges, Sandrine
non,
Manteau
c'est... Alors voilà. Ouais. Ça c'est ton premier roman, mais c'est pas ton premier roman puisque ton premier roman c'est celui-là. Voilà. D'accord, c'est normal, on a tout compris. Raconte.
Alors, tu peux me passer le gros livre rose qui est là ?
Celui-là. Oui. Oui, c'est vrai que ça va avec, on dirait.
Il y a quelques années, j'ai créé un studio de création de jeux de rôle qui s'appelle le studio Dead Crows.
Et c'était à Orléans ?
Ça a commencé à Orléans. Maintenant, ils sont à Montpellier. Je ne sais plus moi du tout qui dirige l'affaire, mais au départ, c'était orléanais. Et notre premier vrai succès en jeu de rôle, c'était ça, Capharnaüm, l'héritage des dragons.
Donc, était dans quelles années ?
Il est sorti en 2007.
Donc, la grande période des jeux de rôle, c'était plutôt les années 90.
Ah oui, là, on est
donc,
déjà après.
On est déjà bien après.
Oui, oui. Et malgré tout, ce jeu-là a quand même connu un certain succès. On est dans l'ambiance mille et une nuits, antiquité pré-islamique, le bassin méditerranéen. Enfin, je m'intéressais énormément à l'imaginaire méditerranéen. Bon, ça reste le cas aujourd'hui. Et quand ce jeu a eu 10 ans et que le studio Dead Close avait été repris par d'autres personnes, ils ont fait une édition anniversaire, un peu augmentée, et pour l'occasion, on m'a dit, ça ne dirait pas de nous faire un petit roman pour le financement participatif sur Internet.
Voilà. Et hop, ça, en une nuit, c'était
fait. Ils sont pas mal, les rires enregistrés derrière.
Ouais, c'est bien. Ouais. En une nuit, c'était fait.
Ah non, pas en une nuit, mais ça a été très vite parce que... c'est 2 mois de travail seulement. C'est très court, hein, c'est 160 pages. C'est 160 pages, ce roman-là. Et donc, je l'ai écrit, il a été financé, tiré à peu près 500 exemplaires, et tout est parti avec le financement. Et après, il ne s'est vendu qu'en boutique spécialisée. Il me tombe des mains.
Oui.
Il ne s'est vendu qu'en boutique spécialisée et sur les salons spécialisés, je ne sais pas comment on appelle ça.
Mais le jeu de rôle, t'étais tombé comment dedans, je t'imagine, en cas.
Bah, je courais.
Tu courais dans
la... voilà, il y avait une marche.
Non, mais est-ce que tu faisais des soirées de jeux de rôle comme
moi, je suis arrivé au collège, comme tout le monde, avec 3 ans de retard à 14 ans. Et non, à peu près à l'âge des autres, je suis arrivé au collège et j'avais encore envie de jouer au bonhomme. Tu sais, et puis je voyais que je jouais plus, on était tous grands, plus personne jouait, et puis quoi, t'as regardé un dessin animé, oh la honte. Et on pouvait pas faire ces choses-là. Donc moi j'ai commencé à me cacher comme tous les autres, et puis à jouer en cachette avec mes bonhommes, et puis après à écrire des histoires, et puis à me rendre compte que j'avais des potes qui avaient le même comportement. Puis il y en a un qui nous a dit, ouais, vous savez, moi, mon grand frère, il nous a fait jouer à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est quoi ? Bon, il y a des donjons, il y a des dragons. Tant, ça a l'air bien. Et puis voilà, je suis tombé dans le jeu de rôle comme ça, et ça a été vraiment une énorme passion.
C'était
tous les mercredis après-midi, toutes les nuits du vendredi au samedi, tous les samedis après-midi, tous les dimanches après-midi. Je suis resté vierge jusqu'à 32 ans.
Et jusqu'à rencontrer Roxane qui en avait 12 à l'époque.
Voilà.
Ça. Très bien. C'est l'admi qui est importante. On continue avec avec Abîme.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, je n'ai pas inventé l'univers d'Abîme, mais quand j'ai commencé, on a du temps.
Ouais. Donc, on est free.
À la fin des années,
Monsieur Pascal Weber.
À la fin des années 90, donc, j'ai créé avec un groupe de copains orléanais, donc mes copains avec qui je faisais du jeu de rôle depuis l'enfance, et quelques personnes que j'ai rencontrées pour l'occasion et qui, eux, étudiaient les arts visuels à l'Institut d'art visuel orléanais. On a créé un fanzine qui s'appelait le Cluricone et qui ne parlait que de jeux de rôle. Et on a eu la chance d'être repérés cette année-là et de remporter le prix du meilleur fanzine... papier, à l'époque on faisait ça en papier.
On en parle encore sur les réseaux sociaux quand on cherche des informations sur toi.
Oui, mais il y a des gens qui vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux et qui se fouettent le dos en disant mon nom. Ah, Raphaël Bardas. Ils font ça.
Le créateur du fameux fanzine.
C'est vrai. Mais donc, quand ce fanzine a eu du succès, un éditeur m'a appelé à l'époque et m'a dit écoute, on a été intéressé par des choses que tu as écrites dans ce fanzine, est-ce que tu voudrais travailler professionnellement pour nous ? Et c'est comme ça que je suis entré professionnellement dans le jeu de rôle, et on m'a proposé de développer, avec beaucoup d'autres personnes, l'univers de Mathieu Gaborit. Mathieu Gaborit, c'est un peu le père de la fantasy française moderne.
D'accord.
Il fait partie des quelques auteurs. Et les éditions de Nemos font partie des quelques éditeurs qui, dans les années 90, ont donné un second souffle à l'imaginaire français.
Et alors là, c'est quel univers, Gaborit ?
On dirait Renaissance Fantasy.
D'accord.
Renaissance imaginaire. Et donc, j'ai travaillé sur du jeu de rôle avec eux pendant des années. Et à l'époque, on avait eu l'idée... Donc ça, Abîme, il y a des romans de Mathieu Gabory qui se passent dans cet univers, d'excellents romans que je conseille. Et ces romans-là se passent dans une ville donc, qui s'appelle Abîme. Et on a eu l'idée d'en faire un guide touristique imaginaire. Et ce guide touristique n'est pas qu'une description de la ville, c'est-à-dire qu'il arrive des choses absolument horribles aux quatre rédacteurs, qui sont les alter-ego des quatre rédacteurs du livre. Et nous avons donc raconté leurs aventures en décrivant la ville d'Abîme. C'est sorti en 2009, des années plus tard, parce qu'à l'époque, c'était pas possible de le financer, mais sorti en 2009 en librairie. On le trouve de temps en temps, je le vois encore dans certains rayons. Mais...
Tindindin. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il y a une histoire d'amour derrière.
Oui, c'est vrai.
Alors moi, comme je suis un peu cucu la praline, je suis une fille, alors j'ai envie que tu nous expliques.
Alors, Venzia, c'est le dernier jeu de rôle auquel j'ai participé, qui a été publié professionnellement. Donc, c'est une idée au départ d'un de mes amis et collaborateurs qui s'appelle Samuel Zonato, qui n'est pas quelqu'un du secteur, hein. Lui, il est médecin dans l'Est de la France. Et donc, Samuel a toujours beaucoup d'idées, mais il a toujours besoin de beaucoup d'auteurs pour l'aider à rédiger. Et donc, ensemble, on a développé Venzia dans le courant des années 2000. Et puis, c'est tombé à l'eau pendant quelques années. Moi, j'ai quitté le studio Dead Crows parce que, on va dire, une sorte de burn-out créatif et besoin d'arrêter. Ma vie entre-temps change, évolue. Le studio Dead Crows, c'est imprononçable, je ne sais même pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. Le studio Dead Crows est repris par d'autres personnes, dont François Sedel, qui était mon co-auteur sur Capharnaüm. Donc, ces gens qui sont bien meilleurs gestionnaires que moi sont aujourd'hui à la tête du studio Dead Crows, qui est l'un des principaux éditeurs de jeux de rôle en France en ce moment. Et donc, ce avec quoi ils se sont relancés, c'était Venzia. Ils ont repris ce vieux projet, ils l'ont relancé, et ils avaient besoin d'auteurs pour remettre un peu de peps. Et mon amoureuse ici présente, Roxane Bourget, et moi-même avons fait partie de l'équipe d'auteurs. Et parce que c'était Renaissance, et nous, on est tous les deux plutôt orientés vers le 17e, 18e siècle, mais la Renaissance, ça nous parle aussi. Et donc, on s'est vraiment bien fait plaisir sur ce jeu et sur ces suites. Il y a eu des suites. Bon, enfin, on parle de suppléments dans le milieu du jeu de rôle, mais il y a eu des suites qui sont sorties récemment, d'ailleurs.
Comme le nom l'indique, ça ne se passe pas à Knokke-le-Zoût.
Non, Venzia, c'est une cité ambiance Da Vinci Punk. D'accord. Donc, il faut imaginer une ville. Tu as vu le postillon énorme là? Le prochain, tu l'évites. Hein, déjà que là, on est en plein cluster.
Pascal, ça c'est très important. Ça, tu gardes ça. S'il faut garder un moment.
Il faut garder mes postillons. Il faut garder les gens qui vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux en se flagellant en disant mon nom, achète mes postillons
en fait,
après.
Saint-Jacques-de-Compostillon.
Voilà, ouais. Exactement. Et donc, Venzia au départ, hein, de Samuel Zonato, mais que nous avons eu la chance d'être embarqués sur le bateau, c'est du steampunk.
Du steampunk. Un univers que tu adores, Pascal.
Mais cette fois-ci à la Renaissance. Souvent, le steampunk. Tu détestes le steampunk ?
Non, mais plutôt 19e.
Alors, le steampunk est très souvent. C'est un genre qu'on assimile au 19e siècle. Mais l'idée, c'était de mélanger le steampunk et les inventions de Léonard de Vinci, l'ambiance de la Renaissance italienne.
Oh, c'est superbe.
Avec une touche de Senseiya, les chevaliers du zodiaque, pour ceux qui s'intéressent aux armures de puissance.
Et alors là, ouf. Alors, attends, celui-ci.
C'est Mnemos encore.
Oui, et alors là, je pense que je vais plus m'y retrouver au niveau pour ce qui est de l'univers.
Alors, à l'origine, là, ça c'est pas un jeu de rôle, mais à l'origine, il y a un jeu de rôle qui s'appelle Rétrofutur, que nous avons édité donc en 2003 chez aux éditions Multisim, et qui permettait de jouer des résistants dans l'Europol, qui était une ville à l'échelle de toute l'Europe, dans des années 50 imaginaires. L'idée, c'est qu'à la fin du 19e siècle, les étrangers, des créatures venues d'ailleurs qu'on n'a jamais rencontrées, ont contacté l'humain pour l'aider à s'élever dans la hiérarchie cosmique, on va dire, et ils nous ont donné des concepts scientifiques, philosophiques, et qui nous ont permis d'avancer. Sauf que c'est la merde. Hein, c'est une uchronie, mais c'est aussi une dystopie. Dans les années 50, on a des villes à perte de vue, cradingues, avec des dissensions sociales, une hyper-administration.
Il y a la Deuxième Guerre mondiale qui est passée par là.
Et non, elle n'a pas eu lieu.
Non, elle n'a pas eu lieu.
Mais non, parce que grâce à la technologie des étrangers, on a réussi
à...
Voilà, mais finalement, c'est pas mieux. Enfin, c'est pas mieux, je ne sais pas. Et donc, il y avait un univers tellement riche que l'éditeur qui avait les droits et qui donc maintenant sont les éditions de Mnemos a décidé l'idée un jour de bah, quand ça a été possible, de publier ce livre univers qui présente avec beaucoup de facsimilés, des nouvelles, des rapports d'activité, la Titanopole, on appelait ça les Titanopoles, il y en a plusieurs sur la planète, la Titanopole européenne, et ça a donné ce livre magnifique. Pas forcément facile à lire, mais beau livre.
Bon, écoute, quand je t'écoute parler, je t'imagine dans ta salle de cours, parce que tu es prof aussi.
Documentaliste. Oui, je suis professeur documentaliste.
Donc c'est bien parce que tu as les enfants en petits groupes.
Oui.
Et tu leur parles de quoi? Ils ont quelle image de toi, tes poussins?
Mais je ne sais pas, il faudrait les interroger. Je pense que j'ai un assez bon contact avec les jeunes.
Tu leur inculques quoi? Tu leur donnes quoi?
Je leur demande de la fermer, je veux être tranquille.
Déjà, voilà. parce qu'il faut que tu finisses ton dernier roman.
Non,
il ne
faut pas déconner non plus. Je ne sais pas. En fait, en tant que professeur documentaliste, on a beaucoup de missions, mais je dirais qu'il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a l'éducation aux médias. Donc moi, j'essaie de beaucoup les sensibiliser aux questions des médias, des réseaux sociaux, de la communication aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros pôle du métier. Puis l'autre côté, il y a la promotion de la lecture. Il faut réussir à leur donner envie de lire.
D'accord.
Donc d'un côté de l'établissement, il y a les professeurs de lettres qui vont leur proposer davantage les classiques. Et donc on peut avoir, nous, les classiques dans le CDI, mais l'idée, c'est pas de faire lire aux élèves les classiques, je pense. C'est autrement de les conduire vers un goût plus personnel pour la lecture. On fait de la promotion de la lecture.
Et puis, on s'est aussi rencontrés sur un atelier d'écriture.
Oui.
Pour enfants.
Oui, qui est un atelier pour enfants. L'idée, c'était que à la MJC de Château-Renard, les enfants avaient une initiation au journalisme. Et on s'était dit que dans ce journal, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir une partie narrative. Et on avait travaillé sur le storytelling et les techniques de base de narration pour inventer des histoires très courtes. Imaginaire, dans le monde de l'imaginaire.
Tu sais qu'on a explosé les compteurs?
Non.
Si, ouais, mais ça ne m'étonne pas. D'accord. Et puis alors, on n'a pas encore parlé de ton goût pour l'Espagne, de ton goût pour la savate.
Oui, une fois,
pour la savate, il faut expliquer quand même. Pour monsieur est professeur de savate, etc. Enfin, il y aurait plein de choses à raconter encore.
Il y a quelques années, je pouvais faire le grand écart entre l'évier et le... Comme Jean-Claude Van Damme, entre le lavabo, où vous l'évier, et le lave-vaisselle.
La prochaine fois, donc fin 2021, quand le prochain bouquin arrivera. Et moi, je veux finir sur une chose, quand même, je balance, parce que si nous avons changé de place aujourd'hui... Si nous avons changé de place sur le canapé, c'est parce que monsieur Bogos, de l'autre côté, a une énorme chic. Comme ça, il m'a dit, si je pouvais être de l'autre côté.
Moi, j'ai pas une chic, c'est faux, j'ai juste un trou, j'ai une dent cassée, j'ai pas encore vu ma dentiste.
Donc tout ça, toutes ces histoires passionnantes de dents cassées, etc., on pourra les aborder dès qu'on aura le tome 2, en fait.
C'est pas un tome 2, non, ça s'appelle Le Voyage des âmes cabossées. Ce sont les mêmes personnages, 3 ans plus tard, qui vivent une autre aventure. On peut lire le deuxième sans avoir lu le premier.
Les âmes cabossées ou les âmes cabossées?
Le Voyage des âmes cabossées.
Et les âmes, c'est Silas, la morue, Rossignol.
Je sais pas.
Oh là là, j'ai hâte. Merci.
Merci à toi,
Sandrine. Raphaël.
De rien.
Et voilà, nous étions entre Loire et Loin sur C2L. Je vous invite à découvrir toutes ces interviews en vidéo sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, vous connaissez la musique. Merci à tous nos invités, merci à toute l'équipe. Sandrine Manteau, Anita, JB, Émilie, c'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. On se donne rendez-vous samedi prochain, comme chaque semaine à 10h sur C2L pour un nouveau numéro. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Ah.